Lizzie présente l'intelligence émotionnelle. Comment transformer ses émotions en intelligence. De Daniel Goleman. Lu par Franck Daquin. Le défi d'Aristote. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite, au moment et durant le temps voulu. Aristote, Éthique à Nicomaque. Cela s'est passé à New York, par un de ces après-midi d'août horriblement humides qui mettent tout le monde à cran. Je regagnais mon hôtel lorsqu'en sautant dans un bus sur Madison Avenue, je fus surpris par l'amical « Salut, ça va ?» que me lança le chauffeur. Un noir entre deux âges, au sourire enthousiaste. Accueil qu'il réservait à tous les passagers. Ceux-ci étaient aussi décontenancés que moi, mais, murés dans leur morosité, la plupart ne répondaient pas. Cependant, tandis que le bus se faufilait dans les embouteillages, une transformation lente et pour ainsi dire magique s'opéra. Le chauffeur n'arrêtait pas de parler, commentant ce qui se passait alentour. Il y avait des soldes à tout casser dans tel magasin, une superbe exposition dans tel musée. Avions-nous entendu parler de ce nouveau film dont on voyait l'affiche au coin de la rue? Le plaisir qu'il tirait des innombrables possibilités offertes par la ville était contagieux. En quittant le bus, les passagers avaient perdu leur air morose. Et lorsque le chauffeur leur criait « À bientôt, passez une bonne journée !» ils le gratifiaient d'un sourire. Cela s'est passé il y a près de 20 ans. Et est resté gravé dans ma mémoire. Je venais de décrocher mon doctorat de psychologie, mais la psychologie que j'avais apprise n'expliquait guère comment une telle transformation pouvait avoir lieu. Elle ignorait tout, ou presque, du mécanisme des émotions. Et pourtant, en songeant à l'onde de bien-être qu'avaient dû propager à travers la ville les passagers de son bus, je compris que ce chauffeur était une sorte de pacificateur. Sa capacité à transmuer l'irritabilité maussade des gens, à apaiser et ouvrir un peu leur cœur, faisait de lui une espèce de sorcier. Voici par contre ce que disaient les journaux la semaine dernière. Dans une école, un enfant de 9 ans s'est livré à des actes de vandalisme. Il a répandu de la peinture sur les pupitres, les ordinateurs et les imprimantes, et saccagé une voiture sur le parking de l'école. Explication. Des grands l'avaient traité de bébé, et ils voulaient les impressionner. À Manhattan, une bousculade parmi des adolescents attroupés devant un club de rap a dégénéré en bagarre. L'un d'eux a tiré dans la foule avec un pistolet automatique. 8 blessés. L'article précisait que, depuis quelques années, les fusillades de ce genre, pour des motifs anodins, devenaient de plus en plus fréquentes. Selon un rapport, 57% des meurtres d'enfants sont commis par leurs parents ou leurs beaux-parents. Dans près de la moitié des cas, ceux-ci affirment avoir simplement voulu punir l'enfant. Ces corrections fatales étaient causées par des fautes bénignes. L'enfant les avait empêchés de regarder tranquillement la télévision, avait pleuré ou sali ses couches. Un jeune néo-nazi allemand a été condamné pour avoir provoqué la mort de 5 femmes et fillettes turques en mettant le feu à leur logement pendant leur sommeil. Il avait du mal à conserver un emploi, s'était mis à boire et imputait ses difficultés aux étrangers. D'une voix à peine audible, il a déclaré « Je suis désolé de ce que j'ai fait et j'ai honte ». Chaque jour, des nouvelles de ce genre témoignent de la dissolution des mœurs, du climat d'insécurité et du déchaînement de pulsions abjectes. Mais elles ne sont que le reflet global du sentiment lancinant que nous perdons tous le contrôle de nos émotions. Nul n'est à l'abri de cette alternance capricieuse d'explosions de colère et de regret. Chacun de nous en fait l'expérience tôt ou tard. Au cours des dernières décennies, nous avons été submergés de nouvelles révélatrices, de l'ineptie, de l'irresponsabilité et du désespoir qui brisent nos vies. Fureur et déchéance sont devenues manifestes, que ce soit dans la solitude des enfants que l'on laisse avec la télévision pour babysitter, dans les souffrances des enfants abandonnés ou maltraités, ou dans l'affreuse intimité de la violence maritale. La dépression des uns et l'agressivité des autres sont symptomatiques d'un malaise affectif général. Ce livre vise à donner un sens à ce qui paraît absurde. En tant que psychologue puis journaliste, j'ai suivi de près les progrès accomplis par la science dans la compréhension de l'irrationnel et j'ai été frappé par deux tendances opposées. L'une constate l'état de plus en plus désastreux de notre vie affective. L'autre propose des remèdes porteurs d'espoir. Pourquoi cette étude maintenant? Si pendant les dernières décennies nous avons vu les nuages s'amonceler, nous avons aussi assisté à une floraison sans égale de travaux scientifiques sur les émotions. Grâce à des méthodes novatrices comme les nouvelles technologies de l'image, scanners par exemple, nous pouvons entrevoir comment fonctionne le cerveau. Pour la première fois dans l'histoire, elles ont révélé ce qui a toujours été un profond mystère. Ce qui se passe exactement lorsque nous pensons, éprouvons des sentiments, imaginons et rêvons. Ces informations neurobiologiques nous permettent de comprendre plus clairement comment les centres cérébraux qui gouvernent les émotions nous amènent à nous mettre en colère ou à éclater en sanglots. Comment les parties les plus anciennes du cerveau, qui nous poussent à faire la guerre, aussi bien que l'amour, sont mises à contribution pour le meilleur ou pour le pire. La lumière nouvelle qui éclaire le fonctionnement des émotions et ses défaillances laisse entrevoir des remèdes inédits à notre crise psychologique collective. La moisson de faits scientifiques nécessaires pour faire ce livre n'est arrivée à maturité que depuis peu. La raison en est que, pendant longtemps, la place des sentiments dans la vie mentale a été ignorée par la recherche, faisant des émotions un continent en grande partie inexploré par la psychologie scientifique. Un fatras de manuels d'épanouissement personnel, prodigue en conseils bien intentionnés, fondé au mieux sur des opinions inspirées par l'observation clinique, mais la plupart du temps dépourvues de bases scientifiques, a tenté de combler ce vide. Maintenant, la science est enfin à même de parler avec autorité des problèmes posés par la psyché dans ses aspects les plus irrationnels, de dresser avec une certaine précision la carte du cœur humain. Celle-ci apporte un démenti à ceux qui souscrivent à une conception étroite de l'intelligence et prétendent que le QI est une donnée génétique non modifiable et que notre destinée individuelle est en grande partie prédéterminée. Adopter ce point de vue, c'est balayer d'un revers de main la question la plus intéressante. Qu'est-il possible de faire pour aider nos enfants à mieux réussir dans la vie? Quels facteurs entrent en jeu, par exemple, lorsque des individus possédant un QI élevé échouent et que d'autres, au QI modeste, s'en sortent étonnamment bien? Je prétends que la différence tient bien souvent aux capacités que nous désignons ici par l'expression « intelligence émotionnelle » qui recouvre la maîtrise de soi, l'ardeur et la persévérance et la faculté de s'inciter soi-même à l'action. Et comme nous le verrons, on peut inculquer aux enfants ces qualités et les aider ainsi à mieux tirer parti du potentiel intellectuel que la loterie génétique leur a imparti. Au-delà de ces possibilités, s'impose un impératif moral. Nous vivons à une époque où le tissu social paraît s'effilocher de plus en plus vite, où l'égoïsme, la violence et le manque de cœur semblent miner la vie de nos communautés. L'importance de l'intelligence émotionnelle tient selon nous au lien qui unit la vie affective, la personnalité et les instincts moraux. Il apparaît de plus en plus clairement que les attitudes éthiques fondamentales de l'individu dérivent de ses capacités psychologiques sous-jacentes. Les pulsions constituent en effet le moyen d'expression des émotions. À l'origine de toute pulsion se trouve un sentiment qui cherche à se traduire en acte. Quiconque est esclave de ses pulsions, autrement dit, quiconque ne sait se maîtriser, souffre d'une déficience morale. La capacité de conserver son sang-froid forme le fondement de la volonté et du caractère.